Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Après la démission historique de Benoît XVI, l'Église catholique a une nouvelle fois surpris le monde entier en élisant l'archevêque de Buenos Aires, premier pontife non-européen depuis 12 siècles. L'attente est donc terminée. Le ministère du nouveau pape argentin commencera officiellement le 19 mars, fête de Saint-Joseph, patron de l'Église. À 9h30, une messe solennelle sera célébrée sur la place Saint-Pierre. Des chefs d'État et de gouvernement y sont attendus, ainsi que des délégués des autres confessions chrétiennes. Trois des quatre cardinaux électeurs français ont tenu jeudi matin une conférence de presse à Rome. Première réaction d'André XXIII, Philippe Barbarin et Jean-Pierre Ricard. Après le vote dans la chapelle Sixtine, ils ont dévoilé les raisons de ce choix du cardinal Bergoglio. Anthony Torzek.
Première raison de ce choix du cardinal Bergoglio, sa personnalité. Selon les cardinaux français, un homme humble, accessible, et les preuves ne manquent pas depuis son élection. Le cardinal Jean-Pierre Ricard.
C'est un petit fait d'hier, mais je crois que ça donne le style aussi du nouveau pape. Quand il est sorti pour regagner avec nous la maison Sainte-Marthe, les appariteurs écartaient les cardinaux pour que le pape puisse descendre tranquillement tout seul dans l'ascenseur. Et lui-même m'a dit non, on peut tous rentrer. Et quand il est arrivé en bas, il a dit non, moi je pars avec vous. Il est monté donc dans le petit car. Et la voiture pontificale est repartie vide.
L'élection du cardinal Bergoglio représente aussi un signe à destination du continent américain. Aujourd'hui, 40% des catholiques sont latino-américains. Un homme éloigné de la curie romaine ou de l'église italienne, mais malgré tout, un fin connaisseur des instances de l'église, le cardinal André XXIII.
En choisissant le cardinal Bergoglio, on choisissait quelqu'un, premièrement, qui n'était pas du système curial, qui n'était pas du système italien, par sa mission et par son ministère, mais j'oserais dire qu'il était cependant, par sa culture et ses enracinements, italo-compatible. S'il y avait une chance que quelqu'un puisse intervenir avec justesse dans la curie, il était l'un de ceux qui pouvaient le faire le mieux.
Autre point en faveur du cardinal Bergoglio, et pas des moindres, son zèle pastoral, le cardinal Philippe Barbarin.
À Buenos Aires, par exemple, j'ai plusieurs fois parlé avec lui du ministère qu'il accomplissait à Buenos Aires, et il m'a dit, tu sais, il faut reprendre les choses par la base, la porte d'entrée, le plus simplement possible. Et donc, pendant un an ou deux ans, il a tout centré sur le baptême. Comme nous, nous mettons des affiches pour l'inscription au catéchisme dans nos diocèses, etc. Mais lui, il a mis, avez-vous fait baptiser vos enfants? Êtes-vous baptisé? Le baptême, c'est la porte d'entrée. Et je trouve ça d'une simplicité évangélique.
Autant de raisons qui ont conduit au choix du cardinal Bergoglio, sans oublier l'essentiel, celle sans quoi rien n'aurait pu se faire selon les cardinaux français, le fruit de la prière.
Et le nouveau pape François a fait ses premiers pas de pontife romain ce jeudi. Au lendemain de son élection, le nouvel évêque de Rome a célébré la messe avec les cardinaux en début de soirée. La célébration a eu lieu dans cette même chapelle Sixtine où vient de se dérouler un des conclaves les plus brefs de l'histoire, sous les fresques de Michel-Ange qui évoquent la création du monde et le jugement dernier. Ce vendredi à 11h, le pape recevra l'ensemble du collège cardinalis dans la salle Clémentine. Samedi, ce sera le tour des représentants des journalistes et des responsable de la communication. Et dimanche, le nouveau pape récitera le traditionnel Angélus de midi depuis l'appartement pontifical. En revanche, pas d'audience générale. Mercredi prochain, le pape François recevra les délégués fraternels. Ce jeudi à la mi-journée, une énième conférence de presse a été tenue au Vatican pour définir l'agenda du tout nouveau pape pour les prochains jours, mais également décrire les premiers gestes du pape François. Bernard de Cotigny.
François et non François Ier, une fois pour toutes. Un prochain pape pourra choisir de s'appeler François II, mais pour l'heure, ce pape s'appelle François tout simplement. Comme c'est tout simplement que François, dont la croix pectorale n'est pas en or, a reçu debout, mercredi, l'hommage des cardinaux dans la chapelle Sixtine, à peine élu, et non assis sur un trône. Et que beaucoup plus tard dans la soirée, à ces mêmes cardinaux avec qui il dînait joyeusement, il déclarait « Que Dieu vous pardonne pour ce que vous avez fait ». Le père Lombardi a confirmé que le pape François, à peine élu, a préféré rentrer à la résidence Sainte-Marthe en minibus, en compagnie des autres cardinaux, plutôt que de prendre la célèbre voiture avec la plaque SCV1, la voiture du pape spécialement préparée pour lui. Et que jeudi matin, après la prière privée qu'il a faite dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, le pape François s'est arrêté à la Casa del Clerc, où il logeait avant le début du conclave, où il a repris ses affaires, puis il a payé la note de sa chambre, afin de donner le bon exemple pour retourner ensuite à Sainte-Marthe. François, dès mercredi soir, a téléphoné à Benoît XVI à Castel Gandolfo, on le sait, après avoir dès ses premiers mots à la loggia remercié le pape émérite et demandé de prier pour lui. Sans aucun doute, ils se rencontreront bientôt. Quand ? Nous vous le ferons savoir. Une chose est certaine, le contact, le dialogue a eu lieu. Le nouveau pape parle bien évidemment espagnol, mais aussi l'italien, également l'allemand, l'anglais et le français, peut-être le portugais. De toute façon, il serait bon qu'il s'y mette pour se rendre à Rio, a expliqué le père Lombardi, rappelant qu'on l'y attend pour les JMJ en juillet. À une question sur la santé du nouveau pape, le père Lombardi a confirmé que dans sa jeunesse, le pape François avait été opéré, qu'une partie d'un poumon lui avait été enlevée, mais que tous ceux qui le connaissent depuis une quarantaine d'années l'ont toujours vu en très bonne santé et que l'on peut imaginer un voyage de François dans son pays, l'Argentine, mais pourquoi pas aussi en Pologne ou en Allemagne, sur la trace de ses prédécesseurs, mais c'est à lui d'en décider.
Le père Federico Lombardi, lui-même jésuite, a tenu également à exprimer des sentiments plus personnels sur l'élection d'un pape jésuite, confirmant ce qu'il avait déjà dit dès mercredi soir, à savoir sa stupeur lorsqu'il a vu son confrère habillé en blanc. Il expliquait alors que les jésuites vivent leur spiritualité au service de l'Église comme un service subordonné à l'autorité plutôt que dans le gouvernement d'un diocèse ou de l'Église. Pour nous, l'idée d'un pape jésuite est une chose très étrange, une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués psychologiquement. Je l'ai vécu, a-t-il dit, comme un appel fort au service de l'Église universelle reçu par notre confrère. On écoute le père Lombardi.
Pour les jésuites, c'est une situation vraiment extraordinaire, car notre spiritualité, notre histoire, c'est une spiritualité du service, aussi du service dans l'Église, pas dans des situations d'autorité des gouvernements de l'Église dans l'ensemble, mais d'être envoyé par les autorités de l'Église, en particulier par les papes, hein, car Ignace disait « Nous devons être envoyés par les papes partout dans le monde où il y a des nécessités de l'Église. » Et alors, notre identité, c'est plus d'être envoyé que d'être, que d'être l'autorité plus haute dans l'Église. Et pour nous, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est la seule fois dans l'histoire, dans 5 siècles, qui se passe. Et je fais mes meilleurs souhaits à lui qui peut servir bien.
Le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège. En 2005, le cardinal Bergoglio était l'un des favoris face au cardinal Joseph Ratzinger. Mais qui est-il exactement? Je vous propose de le découvrir avec Thomas Chabol.
Il y a 2 ans, alors qu'une journaliste lui demandait de quelle manière il aimait se définir, il répondit « Roré Mario Bergoglio, prêtre ». Le nouveau pape est né à Buenos Aires le 17 décembre 1936 dans une famille d'immigrés italiens originaires du Piémont. Il se distingue dès son plus jeune âge par sa simplicité évangélique et son caractère affable. Il fait des études de chimie, puis il choisit le sacerdoce, le séminaire d'abord, puis le noviciat de la Compagnie de Jésus. Il n'a que 37 ans quand il est élu provincial des jésuites d'Argentine. Il le restera pendant 6 ans et en 1992, Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires, cardinal en 2001. Ses fidèles vont apprécier sa sobriété, sa spiritualité, son caractère jovial. Il frappe les esprits le jour où il se met à genoux pour baiser les pieds d'une enfant atteinte d'un cancer. Le pape François aime la littérature, le tango et le foot, mais il se tient à l'écart du carriérisme et de la scène médiatique. Homme de prière, pasteur des pauvres, proche du peuple, voix des sans-voix, défenseur de la dignité humaine face aux institutions, il n'a pas hésité à œuvrer dans les bidonvilles argentins et n'a pas eu peur de fustiger l'avortement et la corruption, la violence et l'exploitation des femmes. Il est attentif au dialogue écuménique, au sort des migrants, à la condition féminine et aux jeunes, surtout les plus nécessiteux. Quant à l'évangélisation, elle doit redonner l'espoir à un monde replié sur lui-même et qui en a tant besoin. Aucune idéologie au cœur de son action, mais la stupeur de la rencontre avec Jésus. L'Église, dit-il, doit savoir montrer le visage de la miséricorde du Christ.
Et comme Benoît XVI en 2005 accusait, souvenez-vous, d'avoir fait partie de la jeunesse hitlérienne, eh bien, le nouveau pape ne manque pas d'adversaires, alors que l'on reproche à l'Église argentine de ne pas s'être opposée suffisamment à la dictature militaire qui a fait près de 30 000 disparus. Et pourtant, contrairement à ce qu'affirment ses détracteurs, ce jésuite austère est aussi apprécié à Rome justement pour avoir purifié l'Église argentine de ses compromissions avec la dictature militaire. Nous avons pu joindre le père Horacio Brito, argentin, recteur des sanctuaires de Lourdes depuis 2008. Le père Brito a étudié aux côtés du jeune jésuite Bergoglio et nous évoque les souvenirs qu'il garde de l'étudiant brillant qu'il a côtoyé.
Oui, je l'ai connu dans les années 70. Nous avons partagé pendant 2 ans quelques cours de théologie à la faculté de théologie de jésuites à Buenos Aires. Bon, il était plus âgé que moi. Vous savez que les jésuites terminent leurs études après avoir été ordonné prêtre. Moi, je venais commencer. Il a l'art aussi de poser les bonnes questions et des questions qui vous interpellent. Un prêtre, il ne leur dira jamais, quoique il est bien obligé de se poser la question. Comment ça va? Comment ça marche dans votre ministère? C'est vrai. Mais comment vas-tu? Comment vas-tu? Cela veut dire comment ça marche dans ta relation avec toi-même, dans ta cohérence, comment ça va dans ta vie spirituelle, où est-ce que tu vis, est-ce que tu te reposes, combien d'heures de travail, voilà.
Est-ce que c'est un homme qui a du caractère?
Il a du caractère, il sait prendre des décisions, il est très clairvoyant, n'est-ce pas, il voit juste, il interpelle toujours les autres par ce prise de position, il est très ferme aussi dans les décisions prises. Mais on sent toujours que derrière tout ça, il y a un grand fond d'évangile.
Donc le choix de son prénom, François, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'il est.
C'est très, très, très cohérent. Je ne me l'attendais pas, quel nom, François. Et c'est exactement, voilà, cette douceur, cette fermeté, parce que François d'Assise était un homme très ferme en même temps. C'est cet attachement personnel, n'est-ce pas, à la pauvreté. Je crois que c'est, il se manifeste une fois de plus cette sagesse de l'Église. Hein. On n'a pas pensé à quelqu'un à cause de son âge, de sa nationalité, de son programme ou quoi que ce soit. On a pensé tout simplement à l'homme de Dieu et qui est là pour servir l'Église. Voilà.
Des propos recueillis par Manuela à Fiji. La plupart des observateurs bien informés estiment que cette élection historique ne manquera pas d'encourager les catholiques confrontés à de nombreux défis. La sécularisation, la menace des sectes, la situation des minorités chrétiennes dans de nombreux pays, les divisions au sein même de l'Église. C'est aussi un message d'espoir pour les masses déshéritées du tiers-monde. L'élu argentin a déjoué tous les pronostics et obtenu la faveur des journalistes et des fidèles par sa bonhomie ainsi que par sa simplicité et la symbolique de ses premiers gestes. Au lendemain de son élection, l'émotion fait place à l'espérance pour les fidèles de l'Église catholique. Jean-Baptiste Cocagne est allé à leur rencontre dans les rues de Rome. Même si peu le connaissent encore, les fidèles ont accueilli la nouvelle avec joie et confiance.
Je trouve ça génial hein, que ce soit quelqu'un de l'Amérique du Sud, jésuite. C'est vraiment super. Ça donne un nouveau souffle à l'Église. Moi, je trouve ça génial que l'Esprit Saint désigne quelqu'un et complètement différent et complètement dans la lignée. C'est vraiment beau. Où on s'attendait pas. C'est drôle de voir les pronostics des médias et puis l'Esprit Saint qui guide. C'est vraiment très drôle.
Jeune, il a 76 ans. C'est vrai qu'il y a une sérénité, il y a un calme, une bienveillance qu'on ressent énorme.
Demander au peuple présent de prier pour lui au début, ça m'a touché. Il est proche du peuple.
La place est transformée en église véritablement parce qu'il y avait un silence cathédral quand le pape est apparu. Les cardinaux aux fenêtres, on n'osait pas trop bouger, on n'osait pas trop parler, impressionné par la ferveur.
On est catholique, plus ou moins pratiquant. On l'était beaucoup plus avant et j'espère que par rapport à lui, on pourra retourner dans les églises de France qui sont un peu vides.
La dernière fois, il faisait partie des favoris et finalement, ça avait été Benoît XVI. Du coup, si ce coup-ci, son nom est encore revenu, c'est que ses pairs considèrent que ça doit être l'homme de la situation.
Nous avons envie d'en savoir un peu plus et surtout de connaître un peu ce qu'il va faire pour l'Église parce que le moment est délicat et que nous avons besoin d'un pape fort qui continue l'œuvre de restauration initiée par Benoît XVI.
L'enthousiasme s'est répercuté aussi en Amérique latine, le continent où vit 40% des catholiques du monde entier. Tous les témoignages recueillis saluent un homme simple et humble, un vrai pasteur. C'est ce que nous confirme sœur Mariana, argentine, de la communauté Point Cœur, basée à Buenos Aires.
Oui, c'est une émotion incroyable, parce qu'en fait, on ne s'attendait pas du tout. Bon, c'est un homme qu'on connaît bien, qui est un saint, un vrai pasteur de notre diocèse, ici à Buenos Aires. Très, très humble. Très humain, très proche, alors c'est une bénédiction pour notre pays aussi. On est vraiment très très émus, c'est ça qui ressort le plus.
Que pensez-vous du choix de son nom de pape, François Ier? Est-ce que ça correspond à sa personnalité?
Oui, je crois. C'est un homme très très simple. Je pense que vous avez pu voir ça juste par son attitude quand il est apparu.
Et qu'il s'est incliné pour demander la prière.
Oui, exactement. Je sais qu'il est aussi un homme qui a une très grande dévotion par la petite Thérèse, et aussi par saint François, bien sûr. Ça me surprend et ça ne me surprend pas, disons.
Juste, est-ce que vous l'avez déjà rencontré personnellement?
Oui, en fait, quand on a dû faire les démarches pour la fondation de notre maison ici à Buenos Aires. Très simple, droit à l'essentiel. Nous appelons, disons, à être une présence au milieu de cette ville qui, comme toute grande ville, parfois a un grand besoin de présence, des prières, une image, une église qui soit vraiment présente. Non, alors, arrive à Buenos Aires.
Des propos recueillis par Manuela, à Fidji. Difficile de faire des pronostics sur les futurs choix du nouveau pape, sur les nominations, sur la gestion des dossiers délicats comme la transparence financière, les problèmes de la curie. Une chose est sûre, c'est que l'Église a su une fois encore se renouveler et étonner, même les plus perspicaces. L'élection de l'archevêque de Buenos Aires à l'issue de 5 tours de scrutin a créé la surprise. Patrice de Plinquette, journaliste et écrivain français, auteur de plusieurs ouvrages sur le pontificat de Benoît XVI, décrypte les premiers gestes du nouveau pape et évoque un changement dans la continuité.
On peut interpréter les premiers signes qui sont très intéressants. D'abord ce prénom de François, ça parle d'un jésuite, cette allusion franciscaine est singulière mais très symptomatique, car François c'est la réforme de l'Église par la pauvreté et par la simplicité. Et d'autre part, les actes au balcon, c'était tout à fait passionnant, ce fait d'apparaître sans l'étole, signe de l'autorité sacerdotale, de mettre l'étole pour la bénédiction, mais après avoir prié, courbé devant la foule et avec la foule, comme un simple fidèle, et ensuite enlever l'étole sitôt après la bénédiction, et le fait qu'il ait parlé de fraternité 4 fois ou 5 fois durant sa petite allocution, c'est extrêmement symptomatique, je pense. Tout donne l'impression que ce sera un grand réformateur.
Un grand changement, un pape latino-américain, mais en même temps qui s'inscrit dans la continuité par rapport au précédent pontificat, au pontificat de Benoît XVI.
Une très forte continuité, puisque Benoît XVI avait dit à de nombreuses reprises que le pape du XXIe siècle devrait être très simple et très humble, parce que c'était la manière au XXIe siècle de faire redécouvrir ou découvrir la foi chrétienne aux gens d'aujourd'hui. Et tous les signes donnés par le pape François tout à l'heure vont vers l'humilité et la simplicité. On peut penser sans le moindre doute que comme Benoît XVI, il ne mettra pas la tiare mais simplement la mitre d'évêque dans ses armes pontificales. Mais il ne faut pas oublier non plus que non seulement c'est un pasteur, c'était l'évêque d'une très grande ville, Buenos Aires, capitale d'un pays à la fois très catholique et en même temps en proie à une modernisation accélérée et même brutale, donc une grande expérience des défis de la société moderne, et qu'en même temps, il a la réputation d'être un très bon manager. Et je pense que la curie romaine a bien besoin d'un bon manager désormais.
Réforme de la curie romaine, donc c'est l'un des défis, mais aussi l'autre grand défi, l'évangélisation.
L'évangélisation, naturellement, il en a d'ailleurs parlé, et il a d'ailleurs eu un mot tout à fait étonnant quand il a parlé de l'Église de Rome, ce qu'un pape fait forcément, à ses premières paroles, mais en disant qu'il fallait commencer par évangéliser Rome.
Pour conclure, qu'est-ce que donc vous inspire cette élection pour l'Église universelle?
Eh bien, je pense que ça met en valeur aux yeux de l'opinion mondiale non chrétienne le fait que le catholicisme est universel, qu'il est mondial et que les gros bataillons du catholicisme international sont en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et que la crise, la fameuse crise de la foi catholique, elle n'existe qu'en Europe occidentale et uniquement en Europe occidentale. Ça, c'est très important. Et il fallait le manifester à l'opinion mondiale. Et je suis très content pour ma part et même enthousiasmé que les cardinaux aient pris cette décision.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur Facebook et sur Twitter, ainsi que sur les applications de Radio Vatican pour iPhone et Android. Merci de votre fidélité.